là pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Derek Gorge. Chaque semaine, je suis les Colliers à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, Radio Primitive sur Reims, mais aussi la locale à Saint-Girons. Derek Gorge, une parole anarchiste communiste. Et bien pour cette émission de rentrée, on va vous parler d'un échec qui a eu lieu au mois d'août. Il s'agissait de la lutte contre le sommet du G7 au Pays Basque. Comme d'habitude, il y avait, quand il y a un sommet de ce type, G7, G8, G20, de l'OTAN, l'OMC, ce que vous voudrez, il y a toujours un contre-sommet qui est organisé, mais celui-là, effectivement, a abouti à un magnifique échec. Je crois que si vous écoutez un petit peu ce qui se passe sur, comme on dit, la toile, il y a beaucoup de textes qui circulent, justement, qui attaquent ce qui s'est passé. D'autres essayent de se défendre, ce qui est tout à fait logique. Le bilan n'est pas encore fait des organisateurs, n'empêche qu'il y a quand même un texte très intéressant qui circule justement d'une personne qui a fait partie de l'organisation et qui décrypte un petit peu ce qui n'a pas été, et c'est comme il dit depuis le début, le verre était dans le fruit. Hein, le verre était dans le fruit. Alors justement, pour parler de ça, moi je ne vais pas vous en parler, j'étais pas. Bon, pour vous parler de ça, eh bien on a deux personnes au téléphone, une tout de suite, puis une autre qu'on aura dans une demi-heure. Une, c'est Christine du Pays Basque, donc, et qui va nous dire un petit peu de quoi on peut en dire de cet échec, de ce contre-sommet.
Oui, bonsoir. Et effectivement, oui. Donc j'ai pas participé à l'élaboration des plateformes et du contre G7 directement, mais bon, j'étais sur place à partir du mardi 19, je crois. Au moment de la mise en place des différentes infrastructures qui devaient servir à ce contre G7, et c'est vrai qu'au fur et à mesure que les journées se déroulaient, on découvrait des choses sur la façon dont tout cela a été organisé. Alors, pourtant, ce rassemblement des chefs d'État, là, du G7, hein, on rappelle USA, Canada, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Japon et France, il a été vécu par beaucoup de gens au Pays Basque, aussi bien militants qu'habitants, simples habitants, comme une véritable provocation. Oui. Parce que en plus, il s'ornait du thème des inégalités, hein, en se donnant comme ça un vernis respectable, alors que bon, ces chefs d'État, on sait pour qui ils œuvrent, pour l'ordre capitaliste en particulier, et que justement ils défendent la fameuse trilogie exploitation, oppression et répression. Donc vous voyez mal comment ils pouvaient mettre en place quelque programme que ce soit autour des inégalités. Donc face à ça, on pouvait s'attendre à ce que l'anti-G7, qui a eu lieu donc du 19 au 26 août, puisqu'un anti-G7 a été effectivement organisé, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit à la mesure de la riposte à fournir au sommet des chefs d'État. Or, comme tu l'as dit, il n'en a rien été. On aurait pu s'attendre aussi d'ailleurs sur la lancée des mouvements sociaux qui avaient eu lieu cette année, en particulier en France, à ce que beaucoup de monde se vienne sur Biarritz, en particulier les Gilets jaunes qui avaient appelé. Or, ils étaient là, effectivement, mais pas très nombreux. Et puis, les gens qui sont venus de l'extérieur, ils ont dû être surpris de voir un Pays Basque aussi soumis, alors qu'il est présenté souvent comme un haut lieu de la contestation.
Ouais.
Alors, il faut dire quand même que c'était un véritable état d'exception qu'il subissait, ce Pays Basque et ses habitants. On aurait dit un pays en guerre. Il y avait plus de 20 000 flics et militaires. Alors, il paraît 13 200 côté français et 7 000 espagnols et basques qui étaient venus renforcer les troupes. Et cet arsenal était évidemment bien annoncé à l'avance. Et le message étant voulu par les autorités et les médias que on ait peur, il s'agissait de dissuader les gens de venir sur la côte, jusque carrément aux habitants de rester coincés chez eux. Et ça explique, mais en partie seulement, que les anti-G7 n'aient pas rassemblé les foules qu'ils espéraient, non seulement donc au niveau hexagonal, voire international, mais encore au niveau même du Pays Basque, parce que là aussi la mobilisation a été très molle. Il suffit de compter la manifestation qui a drainé le plus de monde.
Le samedi,
c'était,
je crois,
à peine 12 000 à Hendaï, pour une manifestation présentée comme festive et familiale. Disons que sur le campement, il a dû passer environ 4000 personnes sur la semaine, et qui ont séjourné donc quelquefois quelques nuits, quelquefois la semaine entière. Et puis sur les lieux où il y avait des conférences et des ateliers, certains ont comptabilisé 5000 personnes cumulées. Il y avait 4 lieux possibles de conférences, de débats et d'ateliers.
Ouais, c'est faible, vraiment faible.
C'est faible, oui.
Ouais.
Alors bon, y a les raisons, d'abord peut-être la façon dont s'est organisé ce contre-G7. Des réunions ont eu lieu dès juillet 2018,
un an avant. Ouais.
Pour organiser la mobilisation, ça aboutit en novembre 2018 sur une plateforme basque qui s'appelle donc G7 Non, GESASPS en basque. Et puis début 2019, par une autre plateforme, hexagonale celle-là, bon, plutôt parisienne, Alternative G7, avec essentiellement des altermondialistes bien connus, comme ATTAC, le CRID, etc. Or, ces plateformes ont fait le pari de l'unité. Elles ont décidé de travailler en étroite collaboration. Et pourtant, elles regroupaient près de 100 groupes. Alors basques, mais aussi donc hexagonaux, basques du Nord et du Sud, avec un mélange assez hétéroclite d'Abertzale, du syndicaliste, de partis politiques, d'altermondialistes, d'écologistes, d'anarchistes. D'ailleurs, ceux-ci, avec les anti-fascistes du Pays Basque Nord, ont décidé de quitter la plateforme basque quelques semaines ou quelques jours même, très peu de temps, avant le début du contre-G7. Donc on peut le voir, des groupes aux objectifs fort peu semblables, voire très différents, avec citoyennistes, lobbyistes, institutionnels, côtoyant anticapitalistes, indépendantistes, révolutionnaires.
Ouais.
Voilà. Donc déjà, ça fait un joyeux mélange. Et sans compter qu'au sein même de la plateforme du Pays Basque, il y avait des points de vue différents, voire contradictoires, non seulement entre les groupes signataires de cette plateforme, mais aussi au sein même de ces groupes. Dès le début, des questions ont été posées pertinentes. Faut-il organiser un contre-sommet? Faut-il accepter l'interdiction des autorités de le faire à Bayonne? Jusqu'où aller dans les mobilisations? Faut-il ou non négocier avec les autorités?
Ouais, ça fait mal.
Voilà, jusqu'où se laisser imposer leur volonté. Voilà, il y avait donc pas mal de questions. Or, finalement, et c'est là que les rapports de force se jouent, les institutionnels ont réussi à faire valider la légalisation du contre-sommet. D'accord. Et à partir de là, il était prévisible qu'on s'orientait vers un anti-G7 domestiqué, canalisé et étroitement contrôlé.
Ouais. D'ailleurs, il y a le préfet des Pyrénées orientales qui a dit
occidentale
ouais. Atlantique là, qui Attends a dit que oui oui voilà qui a dit que c'est important que le contre-sommet comme le sommet soit une réussite. Hein. On s'apercevait dès ce qu'il a pu dire que lui s'impliquait là-dedans quoi au niveau de la réussite de ce contre-sommet alors que normalement ça n'aurait pas dû être son problème quoi.
Ben oui, effectivement, c'était un contre-sommet qui a été, on pourrait presque dire, co-organisé
par l'État.
Avec les autorités. D'ailleurs, pendant plus de 9 mois, c'est énorme, hein, le temps d'un accouchement d'un contre-sommet, ce sont les questions logistiques, et puis les rencontres avec les maires, sous-préfets, préfets, et même avec des responsables du cabinet de Macron à Paris, qui ont occupé des militants des plateformes qui étaient disposés pour la plupart, ou du moins qui s'engageaient à faire régner l'ordre au cours des manifestations en échange des autorisations qu'ils souhaitaient. Ainsi, il y a une quantité de réunions qui se sont passées à amadouer les autorités pour obtenir quelques miettes. Et tout ce temps et toute cette énergie ont été dépensées au détriment en particulier des contenus politiques, ouais. De la sensibilisation contre le G7 au Pays Basque même, de la mise en place d'actions possibles autres que ce qui avait été prévu, d'actions de blocage telles qu'elles avaient été annoncées, alors que bon, ça n'a pas pu se faire.
Ouais, et justement, il y a des tas de gens qui râlent en disant c'est scandaleux, il y avait tas de choses qui étaient prévues, et finalement, ça n'a pas eu lieu, ça a été annulé, on ne sait pas trop pourquoi, voilà.
Oui, en particulier, bon, ben, les seules choses qui se sont passées et qui étaient programmées par les plateformes ont été la fameuse manifestation qui a drainé 12 000 personnes, eux disent 15 000, mais bon, les flics 19 000, disons qu'on fait la moyenne à 12 000 à Hendaï, avec en plus un service d'ordre qui s'appelle service de médiation, et non pas service d'ordre, qui était chargé de protéger les banques, quelques magasins aussi dans Hendaï, où les flics avaient reçu l'ordre de se tenir discret, de se montrer discret pour ne pas qu'il y ait la moindre provocation. Donc cette action a eu lieu. L'autre chose qui a eu lieu, qui était prévue, ce sont les conférences et débats, hein, qui ont eu lieu dans un local très très chic, à Irun, donc, ouais. De l'autre ouais. côté de la frontière, payé 40 000 euros, ce qui a enlevé autant d'argent pour la Legal Team, Medic Street et pour les cantines qui ont dû se débrouiller avec leurs propres moyens. Donc cette partie-là de l'argent a été engloutie dans le FICOBA, donc ce centre de ce grand forum, cette grande salle d'exposition. Et puis la seule action non légale, dans le sens où elle n'avait pas été autorisée, était une action appelée arc-en-ciel, qui devait permettre l'occupation de 7 lieux différents, le plus proche possible de la zone interdite de Biarritz. Donc tout était programmé et prévu. Et au dernier moment, c'est-à-dire la veille, au soir, cette action de 7 lieux devenait un seul rassemblement sur une plage d'Anglette, avec soi-disant un mur populaire qui aurait été édifié, bon, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Et le jour même, le dimanche même, cette action au matin a été annulée carrément.
Carrément, ouais.
Carrément, alors que bon, beaucoup de gens, en particulier de l'intérieur du Pays Basque, s'étaient préparés pour cette action. Alors, elle devait être non violente, hein, il s'agissait d'occupation, mais elle était au moins illégale, ce qui, est, pour une fois, n'était pas trop mal de la part des plateformes. Mais même là, ils ont reculé avec des prétextes, mais vraiment auxquels personne n'a cru. Hein. Un des prétextes, c'était l'arrestation d'un militant du Pays Basque Sud qui a été renvoyé dans ses foyers. Interpellé donc aux portes du campement et qui aurait dû au contraire attiser encore plus la mobilisation.
Oui, ouais.
Hein, et puis l'autre raison invoquée était la peur d'un déploiement policier accentué d'autant par la manifestation de la veille à Bayonne, où effectivement il y avait eu des violences de la part des policiers. Donc, deux arguments, parce qu'on savait que Bayonne était quadrillé et par les flics, mais deux arguments complètement improbables. Et là, c'est vraiment inquiétant, quoi. Hein, ça a vraiment... déjà, c'était pas heureux ce qui s'était passé avant, mais là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ouais.
Alors, je crois qu'il y aura, des règlements de compte, certainement.
Il va y avoir des constats. Alors, déjà, il y a quelques constats amers. En particulier, il y a un texte qui est paru d'un des organisateurs aussi, mais qui n'a pas circulé hors du Pays Basque, qui se trouve dans une revue hebdomadaire au Pays Basque, et qui explique la déception qu'il ressent lors de l'annulation justement de cette action dite arc-en-ciel. Ouais. Ouais. Hein, il explique d'ailleurs les raisons, et c'est un texte qui sans doute circulera aussi assez ouais. vite.
C'est de Laurent Thiel.
Alors, ça, c'est un autre texte.
C'est un autre texte, d'accord.
Ouais. Là, celui dont je parle, c'est de Yakesh Borteirou, qui fait partie des organisateurs de... et qui est en conflit hein, à l'intérieur même de l'organisation de la plateforme basque.
Oui, alors oui, d'accord, ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors justement, dans le texte de Laurent Thiel, il y a un truc qui m'a interpellé, oui. Et ça devait interpeller aussi les Gilets jaunes. Je vais lire d'ailleurs le passage, il s'appelle « Le ver dans le fruit ». La première dissension au niveau de la plateforme G7 a eu lieu en février. Accepter ou non de légaliser le contre-sommet et donc de passer par la préfecture. Dès le début, deux groupes se sont affrontés. Un groupe institutionnel voulait assurer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, voulait assurer une université d'été et de grandes conférences pour s'opposer idéologiquement au G7, alors qu'un autre groupe souhaitait conserver son indépendance pour assurer les actions et le blocage du G7. Les institutionnels ont fait valider la légalisation du contre-sommet. Et à partir de là, l'échec était annoncé. Voilà, c'était un extrait de ce texte.
Oui, oui. Ben oui, c'est effectivement une raison, mais il y en a d'autres encore. Il y a d'autres côtés un peu scandaleux dans toute cette affaire. C'est un principe avait été défini aussi et communiqué bien avant le contre-sommet par les plateformes. Ce principe, c'était que ces plateformes s'en tenaient à des actions non violentes. Mais elle disait ne pas contester d'autres formes d'action qui seraient organisées hors plateforme. Ouais. Or, ce principe a fait long feu très vite. Et un nouveau principe qui a surgi un peu avant l'ouverture du contre-sommet, celui appelé consensus d'action. Une sorte d'accord. d'élément de langage qu'il fallait traduire par un seul type d'action qui est acceptable, ouais. celui décidé par les plateformes, c'est-à-dire des actions non violentes. Évidemment, ça a créé des tensions très fortes parmi les militants qui étaient présents sur le campement du Rugne, et parmi eux, en particulier, des Gilets jaunes du Saint-Nazaire, qui ont dénoncé cette exclusivité qui était accordée aux actions pacifiques. Et je cite, ils y voyaient une désolidarisation
par rapport à ce
vis-à-vis de formes d'action qui ont marqué le mouvement des Gilets jaunes, et tant d'autres avant lui. Et ils ont communiqué ça publiquement et devant, en présence des membres des plateformes. Donc, d'ailleurs, ça s'est exprimé lors des AG et aussi par des effets de tag sur les murs du campement. Alors là, les pacifistes, ils ont vu beaucoup de choses contre eux à ce moment-là.
À ce moment-là, oui. Ouais.
En fait, bon, on peut se dire aussi que le principe selon lequel toutes les formes d'action seront tolérées, c'est un peu un leurre. À la rigueur, dans ce cadre, elles n'auraient été tolérées que si elles n'avaient pas empiété sur le précaré des organisateurs. C'est eux qui géraient les espaces. Ils exerçaient là leur hégémonie. Il ne fallait pas qu'on perturbe le programme qu'ils avaient bien ficelé.
Tout à fait, oui.
Et donc, on s'apercevait que tout ce qui n'entrait pas dans le cadre prévu par les plateformes était vraiment très malvenu. Mais en même temps, on peut se dire que il ne peut pas y avoir unité, ni prise en compte et tolérance pour toutes les formes d'action quand les objectifs et les idéologies ne sont pas les mêmes et bien même sûr. Quelquefois complètement contradictoires. Et dans tous les cas, ce sont les rapports de force qui tranchent. Il était évident que ceux qui gagnaient, de là, sur ce terrain, c'était ceux qui avaient opté pour la voie légaliste et institutionnelle, c'est eux qui tenaient les rênes.
Oui.
Ça. Alors malgré ça, il y a quand même eu quelques manifestations et des actions hors plateforme. Hein. Mais malheureusement, il faut reconnaître qu'elles ont été non seulement rares, mais aussi sans grande envergure. Elles n'ont pas rassemblé, elles ont rassemblé tout au plus 400 personnes. Alors, il y a eu un cortège qui a cherché à bloquer l'autoroute à Urune, qui a été refoulé très violemment vers le campement, avec le campement où se trouvaient donc les gens de l'anti-G7, avec coups de matraque, tirs de grenades lacrymogènes, LBD, et poursuite par des flics voltigeurs, et puis donc à l'entrée du campement, construction de barricades par les manifestants. Ce soir-là, il y a eu 17 interpellations et 23 blessés légers.
Ouais.
Le samedi après-midi, il y a eu aussi une tentative de manifestation à Bayonne.
Ouais, Bayonne.
Elle a été vite encerclée par les flics, là aussi gaz lacrymogène, canon à eau, 68 interpellations, 38 gardes à vue. Le dimanche, il y a eu un rassemblement appelé à Bidart par les Gilets jaunes. Il a été complètement encerclé par des hordes de policiers. D'autres actions encore, il y a eu le transport collectif de la charpente reproduisant en modèle réduit celle de l'Ambassada de Notre-Dame-des-Landes. Elle a été portée en cortège pendant 5 kilomètres, du campement d'Urung jusqu'au village intergalactique qui se trouvait à Hendaye. Il y a eu aussi en soirée une manifestation féministe qui est partie de Dirun, donc de l'autre côté de la frontière, jusqu'à la plage d'Hendaye, à peu près une dizaine de kilomètres. Il y a eu aussi une intervention des syndicats contre McDo à Hendaye, une autre avec des paysans de LB qui sont liés à la Confédération paysanne, contre Monsanto à Pérorade. Il y a eu le dimanche la fameuse manif de Bissy, avec une organisation non violente liée à Alternativa, avec les fameux portraits décrochés de Macron, quelques portraits. Il y a eu un concert nocturne à Ustaritz, près de Bayonne, devant un internat où étaient logés des CRS, un internat scolaire. Il y a eu deux autres manifs bruyantes comme ça, devant deux internats qui logeaient des CRS à Mauléon, en Soule. Et là, les flics se sont fâchés et ont réagi à coups de matraques, de pieds et de gaz lacrymo. Il y a eu aussi deux rassemblements, un à Hendaye et un à Bayonne, pour dénoncer les arrestations et les gardes à vue et exiger la libération des interpellés. Voilà, c'est des actions quand même hors circuit. Autorisées, disons.
Oui. Se pose quand même le problème de ce type de contre-sommet. Parce que quand il y a un sommet de ce type-là, maintenant la France, comme les autres pays, ont fait le bilan de ce qui s'était passé à Gênes, à Seattle, en 99, il y a 20 ans, tiens.
Oui.
T'es vraiment, ils sont là, vraiment, ils t'attendent, quoi. Ils t'attendent, t'es dans une situation pour manifester, c'est quasiment bouclé, c'est vraiment... terrible, quoi. Alors en plus, les organisateurs sont institutionnels, c'est foutu encore plus.
Oui, parce qu'effectivement, il s'agissait d'un contre-G7 qui était normalement présenté comme devant bloquer le G7, après plus modestement perturber le G7.
Perturber, ouais.
Mais bon, cet objectif n'a pas été tenu et il était évident que les mobilisations qui étaient autorisées organisées par les plateformes anti-G7 ne pouvaient pas constituer de réels blocages ou de perturbations de ce G7. Donc, en plus, bon, faire un anti-G7, c'est aussi répondre sur le terrain du pouvoir.
Du pouvoir, ouais, c'est ça, tout à fait.
C'est comme une opération de... C'est comme un reflet inversé du G7 officiel.
Tout à fait.
Opération de contre-communication avec la volonté de démontrer qu'il y a des contre-pouvoirs en action. Or, le G7, il impose son calendrier, il impose son espace, il impose surtout ses flics et ses capacités répressives. Et les opposants font que courir après et dépendent d'un rythme et de moyens qu'ils ne possèdent pas et qui leur sont imposés. Donc, en plus, comme tu dis, le choix a été fait de tout négocier avec les autorités Donc il était couru d'avance, c'était couru d'avance avec les forces impliquées d'ailleurs, et puis qu'il y aurait police partout et contre-semé nulle part.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors il y a aussi le problème qui se pose, c'est au niveau, alors là j'étais pas là, au niveau des contenus des débats. Est-ce que tu penses que le contenu des débats était quand même, avait des côtés sociaux, avait des côtés sur ce qui se passe au niveau vraiment résistance sociale? Il y avait les gilets jaunes qui étaient là, mais il n'y a pas que les gilets jaunes, il y a des tas de choses qui se passent.
Bon, j'avoue que je me suis complètement désintéressée de ces débats, ne serait-ce que parce que le cadre me repoussait. C'est vraiment un cadre très luxueux avec des grandes salles, des écrans vidéo, des projecteurs. Bon, qui était vraiment pas
sympathique, quoi.
Ah oui, qui ressemblait presque vraiment au sommet officiel. Et en plus, bon, c'était des thèmes très larges, anticapitalisme, altermondialisme, lutte climatique, lutte sociale, certes, féminisme, internationalisme, mais avec des têtes d'affiches très souvent. Martinez, on a eu droit à Martinez, à Duflo. Au responsable de Greenpeace, à Besancenot, à Otegi, responsable politique de la gauche à Bertzalé, au Pays Basque Sud, Tramoni, le Corse, enfin bon, des grandes pointures, quoi. Et donc on peut... Alors il y a eu quelques débats intéressants, il y en a eu avec Pierre Stamboul, par exemple, sur la Palestine, mais c'était pas dans ce cadre-là, c'était dans un lieu plus modeste, dans une école, où il y avait des jeunes qui organisaient des débats aussi. Au village intergalactique, il y a eu quelques débats, mais pas passionnants. Enfin, quand même, une lutte des paysans locaux qui était intéressante. Et puis, des choses aussi sur les langues minorisées. Il y avait des films aussi avec débats au cinéma d'Andaï. Mais j'avoue que moi, j'ai complètement squeezé ce qui se passait dans le grand centre d'exposition Ficoba.
Ouais. Et en plus, apparemment, il n'y a pas grand monde qui était au courant que ça coûtait aussi cher, quoi.
Non, 40 000. Alors, c'était 16 000 qui était prévu. Et là, 40 000 euros ont dû être dépensés. Et c'est vrai que c'est grave parce que ça a enlevé des moyens. Bah, oui. Alors, les cantines ont dû se débrouiller et je pense qu'elles ont fait faillite. Les cantines qui produisaient des repas sur plusieurs sites et des repas à prix ouais. ce qu'on voulait, quoi. Donc elles ont dû faire un plongeon aussi financier. Et puis les problèmes surtout d'aide de Legal Team et de collectif anti-répression qui demande du fric parce qu'il y a eu quand même, là on n'a pas le temps d'en parler, il y a eu quand même pas mal d'arrestations.
Oui, il y a eu 160 interpellations.
Voilà, ah. Il va y avoir des procès, de très nombreux procès.
Beaucoup de procès à Bayonne.
Bientôt. Ouais. Donc, il va y en avoir un paquet. Ils ont commencé d'ailleurs le 7 septembre et il va y en avoir 15 le 20 septembre. Donc il y a beaucoup de procès qui vont avoir lieu. 168 interpellations, il y a quasiment préventives, avec suite à des fouilles de sacs, de voitures, pour des motifs fallacieux. Et 119 personnes gardées à vue, pendant 48 heures pour la plupart. La plupart aussi quand même remises en liberté. Il y a eu 5 comparitions immédiates à Bayonne et à Dax. 53 personnes qui vont être jugées d'ici début décembre. Pour des faits habituels, hein, participation à un groupement en vue de commettre des violences, transport ou port d'armes prohibées, violences et outrages sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Il y a eu 16 interdictions administratives du territoire pour des militants qui venaient du Pays Basque Sud ou d'autres pays de l'UE, comme un camarade allemand.
Allemand, oui.
Et il y en a un qui a été refoulé 2 fois du Pays Basque, uniquement sur la bonne foi de notes de renseignement. Et puis 6 personnes qui ont été mises sous écrou sur simple décision du procureur, sans procès, sans possibilité de faire appel, dont les fameux 3 jeunes Allemands, incarcérés aussi de façon scandaleuse avant le contre-sommet. Ils ont eu un procès expéditif aussi. Donc, il va y avoir une vague de 12 procès le 20 septembre à Bayonne et ils vont s'étaler les autres jusqu'au 3 décembre.
Jusqu'au 3 décembre, oui.
Donc, est-ce là aussi, il y a besoin de moyens et bon, il va falloir.
J'espère qu'il y aura une solidarité, quoi.
Voilà, s'activer pour être solidaire.
Voilà. Mais écoute, on te remercie bien.
Hein. De rien.
Et puis, à très bientôt.
Merci.
Allez, au revoir.
Au revoir.
On va poursuivre maintenant par un autre témoignage de Françoise qui vient du Poitou et qui était là-bas, bien évidemment, qui va donner un petit peu son avis. Elle a écouté sans problème en direct sur ce que disait Christine. Elle va donc essayer de compléter. On va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de redites entre les deux interventions. Alors voilà, Françoise, tu m'écoutes?
Oui.
Dis-moi.
Bon, Christine, elle a dit beaucoup de choses, hein, c'est sûr que... Mais bon, je peux préciser quand même, donner quelques informations supplémentaires. Par rapport à l'échec, enfin, ce qu'on peut dire, les effets dissuasifs qui a joué pour qu'il y ait peu de monde à ce contre-sommet, il y a effectivement la communication gouvernementale qui a été très très forte sur la répression à attendre. Hein, Christine a rappelé le nombre de policiers, tout ça. Enfin bon, il y avait le centre de rétention administrative qui avait été vidé pour accueillir. Il y avait 70 avocats commis d'office prévus, le tribunal enfin qui s'installait. Des choses comme ça qui étaient propres à refroidir les enthousiasmes pour venir. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que en fait, il n'y a eu aucun procès au tribunal de grande instance de Bayonne, que les interpellations, elles ont été surtout préventives, qu'il n'y a pas eu du coup de dégradation de choses, que les gardes à vue ont été très souvent prolongées, ce qui faisait que quand les gens étaient arrêtés le vendredi, ben, ils n'étaient pas de manif le samedi, c'était clair. Donc il y a eu toute une organisation comme ça pour dissuader
de manifester plus simplement.
Voilà, ouais. Ça. Et sur cette base-là, ben, le gouvernement il a pu faire vraiment ce qu'il voulait. Et là, on est en plein dans la militarisation de la société et vraiment cette répression des mouvements sociaux qui est toujours plus féroce et qui s'est exercée contre les gilets jaunes toute cette année. C'est une démonstration de force. En plus, il a fait de la provocation, Macron, en allant faire ça, ce contre-sommet au Pays Basque, après l'arrêt de la lutte armée. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez dur, quoi.
Ouais, très dur.
D'autre part, il y a quelque chose qui rendait la participation au débat, par exemple, extrêmement difficile. Christine n'en a pas trop parlé de ça. C'était l'organisation matérielle sur place, parce que en fait, il y avait donc le FICOBA, là, le centre de conférence où était
qui a coûté 40 000 euros, ouais.
Les trucs voilà alternatifs et tout ça, qui était à Irun. Et puis il y avait à Hendaye la semaine intergalactique qui se trouvait au port Caneta. Et puis il y avait le campement, mais le campement était à 7 km de la semaine intergalactique, à 8 km de FICOBA, donc ça faisait très très loin. Il y avait des navettes, mais pour aller accéder aux navettes, il y avait 20 à 30 minutes de marche. Pour aller accéder à la voiture qu'on nous avait garée sur un parking, c'était aussi 20 à 30 minutes. Donc ça incitait pas. En plus, les navettes, elles fonctionnaient que jusqu'en milieu de matinée surtout. Et puis après, le soir, elles étaient extrêmement rares. Pour la semaine intergalactique, la BAC, enfin la brigade anticriminalité, systématiquement enlevait les banderoles, les panneaux qui signalaient à quel endroit c'était en ville. Donc c'était pas facile à trouver. Donc tout ça, ça faisait que, par exemple, les gilets jaunes, ils avaient plutôt tendance à rester au campement parce qu'il n'y avait rien d'assez attractif pour se taper autant de routes. Parce que après, donc, si on parle de la programmation, c'était extrêmement faible. Christine a parlé aussi de ça, les conférences qu'il y avait à FICOBA. Mais même à la semaine intergalactique, il n'y avait pas énormément de débats. Et il y avait trop peu de choses sur les luttes sociales pour que ça soit vraiment quelque chose, pour moi en tout cas, d'attractif. Il y avait une journée sur les territoires, un débat sur la répression contre les gilets jaunes, mais qui n'a pas vraiment eu lieu. Il y avait un atelier sur les agressions antisexistes, mais... c'était à peu près tout ce qu'on pouvait se mettre sous la dent. C'était assez court comme programmation. Et en plus, alors pour revenir sur l'ambiance et la difficulté de ce contre-sommet. Il y a deux choses qui ont pourri l'ambiance au campement particulièrement, qui était le communiqué de dissociation par rapport à la violence que les officiels, les organisations officielles du contre-sommet ont produit. Ouais. Qui a mis en colère un certain nombre de personnes. Puis, par exemple, les Gilets jaunes ont fait savoir qu'ils ne comprenaient pas ce genre de logique après avoir dit que toutes les tous les moyens d'action
etc., devaient
s'exprimer. Voilà, ils se sont dissociés. Et puis, ce qui a aussi mis en colère les gens, c'était le fait que le programme du G7 officiel, avec les conférences et tout ça, en fait, à la fin du programme, on découvrait les sponsors, c'est-à-dire la France Insoumise.
Et tous ceux qui n'ont rien foutu, évidemment, mais qui sont là pour signer. Ouais.
Voilà, et qui étaient au bas du truc. Donc ça a vraiment contribué à créer une mauvaise ambiance au campement, particulièrement, où quand il y avait des assemblées générales, il y avait des cris de collabos qui sortaient comme ça, ou alors des gens qui s'énervaient en sens inverse et qui disaient « si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à vous en aller ». Enfin, c'était pas très sympathique. Ouais. Et pour finir sur la manif qui a été donnée comme la seule, enfin la réussite par les organisations officielle du contre-sommet. Faut rappeler qu'elle s'est quand même déroulée sur un parcours qui se situe à des dizaines de kilomètres du sommet, et surtout qu'on croisait presque personne sur ce parcours.
Oui,
c'était vraiment un truc. Toutes les manifestations qu'a rappelé Christine, les petites manifestations qu'il y a eu et tout, en fait, à chaque fois, c'était des parcours où il fallait surtout pas que ça arrive sur la plage où il y avait tous les touristes et tout. Il y avait une négociation avec la préfecture sur ce genre de choses, quoi.
Ouais.
Voilà. Et sinon, par rapport au contenu politique, parce que c'est quand même ça qui devrait importer pour les révolutionnaires, le camp révolutionnaire, ce qu'on peut dire, c'est que... comme il y avait très très peu de choses sur les luttes sociales, en fait, les deux thèmes qui revenaient autant, pas autant, parce que c'était toute proportion gardée, mais des thèmes qui revenaient assez souvent à FICOBA, c'était sur le féminisme ou sur l'écologie. Oui. Et à la semaine intergalactique, les quelques débats qu'il y a eu, donc c'était cet atelier sur les agressions antisexistes, donc, voilà. Mais l'écologie, c'est un thème aussi qui revient chez les radicaux comme chez les autres, et ça interroge quand même beaucoup, même si c'est pas la même façon de le traiter, parce que sinon Macron aussi, il défend officiellement le féminisme et l'écologie. Tout le monde parle de ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'écologie ça veut dire sauvant la planète seulement? Est-ce que le féminisme ça veut juste dire on va sortir des sous pour contre les violences conjugales, ou il y a quand même une grosse interrogation à avoir sur, à l'heure actuelle, ce qui motive, ce qui agite la place publique, quoi. Ouais. C'est quand même je pense que derrière tout ça, il y a cette absorption des théories postmodernes, le fait que par les milieux radicaux comme les autres, hein, c'est-à-dire qu'il y a une capacité, un refus en tout cas de globaliser les problèmes et de mettre en rapport les éléments entre eux pour on est sur vraiment une défense de l'individu, la vie quotidienne, sur les oppressions spécifiques, ça au détriment de la lutte des classes, comme si ça n'avait plus d'importance, c'était très secondaire. Et bon, ça, c'est très préjudiciable à la lutte. Ça, c'est
tout à fait.
C'est évident. Sinon, un autre point qu'on peut dire aussi, c'est que dans cette ambiance pourrie là que j'ai décrite rapidement, où les gens se parlaient de collaboration et de trahison parce qu'il y avait eu des négociations vraies ou supposées entre les organisateurs du contre-sommet et puis l'État. En tout cas, ce qui est à souligner, c'est que Il n'y a rien à attendre de toute façon de ces organisateurs-là. Alors, ils ne sont pas plus collabos ni traîtres.
Oui, tout à fait. Ils ne sont pas trahis, puisque de toute façon, c'est leur fonction même d'avoir cette pratique.
Voilà, ils jouent leur partie. Ce qui se pose à travers ça, la façon dont ça s'est passé et tout, c'est la logique des fronts. Est-ce que c'est intéressant d'aller effectivement faire un front avec les réformistes,
On peut s'interroger effectivement sur la présence de révolutionnaires dans ce type de contre-sommet. Il y a des fois, je me dis, faudrait peut-être se poser le problème qu'on n'a pas grand-chose à faire avec des gens qui, même altermondialistes, hein, qu'est-ce que c'est que l'altermondialisation? C'est, comme le terme le dit, c'est alter, c'est-à-dire que c'est pas anti. Les compromis, faire en sorte que la mondialisation se passe autrement, mais il y a mondialisation qu'on reconnaît. C'est ces problèmes-là qui sont à mettre sur la table, peut-être.
Ouais, au lieu de ça, les débats qui sortent, c'est violence ou non-violence. On en a mangé, quoi. Toujours sur les modes d'action, mais sur le fond politique.
Sur le fond politique, il n'y a rien,
Il n'y a pas assez de dissociation de... Donc c'est vraiment une. Moi je trouvais que contre-sommet est un échec certes et tout ça, mais c'est surtout un aveu de faiblesse du camp radical si camp radical il y a encore parce que c'est à s'interroger.
Ouais, tout à fait. Ouais. Bon écoute, on va se quitter là, hein. Peut-être. Ouais. On va peut-être passer. T'as d'autres choses à ajouter ou pas? Parce que je vais peut-être pouvoir parler.
Ah oui, quand même, nos amis, nos camarades et les autres gilets jaunes que nous, ceux qui étaient présents là, je pense qu'ils ont vraiment dû avoir beaucoup de mal à s'y retrouver. Et je comprends qu'ils soient restés entre eux beaucoup au campement, parce que franchement, ils n'avaient pas trop leur place dans ces conférences et dans cette organisation des choses, quoi.
Ouais.
Vraiment.
Ouais. Justement, dans votre coin, parlons des gilets jaunes, est-ce qu'il y a eu une remontée de ce dernier samedi de mobilisation, regain de mobilisation, un retour, non?
Ça, je ne pourrais pas dire parce que je n'y étais pas, mais je sais qu'il y a des endroits où ça a bien
repris. Où ça a bien refonctionné.
Mais c'est surtout le 21 qu'on attend.
Oui, c'est le 21 septembre.
Oui.
OK. Bon, écoute, on va se quitter là. Et puis, à très bientôt.
D'accord. Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Il n'a pas de musique, le garçon, donc il va falloir que je cause. Oui, alors on va revenir sur Reims un petit peu, vu que je crois demain, il y a une manifestation devant la sous-préfecture de Reims contre ce que l'État fait aux sans-papiers, sauf sans-papiers, aux gens qui viennent demander asile en France. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, à Reims, mais aussi dans d'autres villes, en particulier à Metz, la situation est bien pire. À Lille aussi, il y a des dizaines et des dizaines de demandeurs d'asile qui demandent donc l'asile en France et qui n'ont pas de lieu, et normalement c'est prévu par la loi, n'ont pas de lieu pour survivre. Ils sont donc obligés de vivre actuellement sous des tentes. Il y en a, je crois, 50, 60 personnes sur Reims. Il y en a 150 à Metz, etc. Ce qui fait que demain soir, on essaye de se mobiliser pour justement faire en sorte qu'il y ait du bruit et que l'État soit contraint de prendre en charge ces gens au niveau de l'hébergement. Voilà, je crois que c'est normal, c'est eux qui doivent, normalement, d'après la loi, ils ne respectent même pas leur propre loi, ces gens-là. C'est pas possible, quoi.
Il y a deux cas. Il y a ceux qui arrivent et qui ne sont pas encore passés en préfecture pour être inscrits en tant que demandeurs d'asile. Ceux-là, de toute façon, il n'y a pas de... Ils n'ont pas le droit à l'hébergement.
Ouais.
Et donc, théoriquement, ça doit se faire dans le mois... qui suivent leur arrivée et qui sont qu'une association ait pris un contact avec la préfecture pour qu'ils soient reçus, mais c'est de plus en plus long. ça dure en général au moins 3 mois. Donc, ceux-là, de toute façon, déjà, l'État fait tout pour qu'ils ne soient pas hébergés. Et puis, il y a ceux qui sont, que leur demande est en cours, qui devraient être hébergés et qui ne sont pas. Et puis, il y a même des gens qui ont le statut, ouais, qui le devraient statut. Avoir aussi logement, etc. Et qui
n'ont rien.
N'ont rien. Voilà. Et on nous dit que c'est parce qu'il n'y a pas assez de place de prévu pour l'hébergement. Ah oui, mais...
Fallait prévoir, oui. Ouais. C'est clair. Donc, alors, je rappelle que demain, donc, à partir de 16h30, on se retrouve devant la sous-préfecture pour manifester notre mécontentement par rapport à l'État français concernant les demandeurs d'asile en France.
Donc, simplement, donc c'est, ces gens se trouvent actuellement sur un terrain qui est à la limite du terrain de foot, pas loin de l'Armée du Salut, rue Roger Paris.
Oui, près du canal. Non, en
près
fait.
Du canal. Et donc, il y a des gros besoins pour déjà pour l'hébergement, puisque à chaque fois qu'ils logent, ils sont quand ils sont virés, tout le matériel est piqué. Donc il y a de moins en moins de tentes. Il y a de plus en plus des abris de fortune. Voilà. Puis il y a des problèmes de vêtements, de bouffe, etc. Donc voilà quoi.
Et puis des problèmes de promiscuité, évidemment, oui. Dans ce type de lieu. Effectivement, quand on se retrouve à 50, 60 dans des conditions comme ça, c'est pas du tout. C'est difficile quoi. C'est difficile à gérer, y compris pour les militants qui essayent de s'investir là-dedans. Oui. Alors, au niveau des militants qui s'investissent là-dedans, je crois qu'il y a un collectif qui s'appelle Sauf qui peut, qui, depuis quelques mois déjà, sur Reims, manifeste et fait en sorte qu'il y ait une aide matérielle, humaine, etc., pour qu'effectivement, le minimum soit fait par rapport à ces personnes. Alors, d'autant plus que la plupart du temps, quand on regarde bien, ces gens qui viennent, s'ils ne sont pas venus là par hasard. Certaines, par exemple, je parle certaines puisqu'il s'agit de femmes, ont connu des violences. Il y en a d'autres qui ont fui l'excision avec leur enfant, leur fille. Donc on a des situations dramatiques, c'est moins qu'on puisse dire. Ces gens-là, normalement, devraient être mis à l'abri. Ils ne le sont pas. Ça peut durer des mois comme ça, avec des problèmes, entre autres, aussi des problèmes psychiatriques pour certains, ce qui est logique, normal. Bon, ce qui s'est passé encore récemment, quand, dans un fait divers, là, de quelqu'un qui a pété les plombs, ben oui, c'est ce qui peut nous arriver quand on n'est pas capable, effectivement, de faire en sorte que ceux qui arrivent, on puisse effectivement les accueillir correctement. Voilà. On va peut-être se quitter là, tant pis, ça ne durera pas une heure, mais on verra bien.
Pour vous dire que ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et enfin la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben il faut changer les lois, puis c'est tout quoi.
Donc c'était notre émission de reprise. Les Grégor, chaque semaine, sur l'Écho des Garrigues à Montpellier. Ben non, Camille me dit non, puisqu'il y a eu d'autres. Il y a une semaine, la semaine dernière, enfin c'était la première émission en direct, dirons-nous, de reprise en direct. Donc bon, alors ça n'a pas été terrible au niveau de l'animation, puisque on pensait que l'émission sur les G7, l'échec du G7 pouvait faire une heure. En fait, non, il n'y a pas eu grand-chose à dire de plus que les deux copines ont pu nous dire, puisque effectivement, ça a été un échec. Et dans ce cas-là, eh bien, on en prend quelque part plein les gueules. Alors bon, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles opérations. Vous écoutez donc les Grégor, une parole anarchiste communiste, chaque semaine sur l'Écho des Grégor à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, la locale à Saint-Giron, et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée.
Les sites.
Alors, vous pouvez retrouver nos émissions sur le site auclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51. Mmh.